Bonsoir à toutes et à tous, Michael pour l'agenda culturel, on est vendredi 2 et je reçois Daniel Raymond, comédien, et Béatrice Davin, bonjour.
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 Donc pour une pièce que vous allez nous présenter, une pièce donc de Copy, un auteur d'Amérique du Sud, précisément me semble-t-il un Argentin,
oui,
francophone.
C'est ça.
Romancier et dramaturge, figure majeure donc du mouvement gay en 1939 à Buenos Aires.
39, c'est son année de naissance, c'était plutôt dans les années 70.
Les années 60, puisque donc mort en 87 à Paris.
Voilà, c'est ça.
Alors donc vous venez nous parler de cette pièce, oui, au Théâtre de l'Épi à Blois.
Alors le Théâtre de l'Épi que nous sommes est donc notre association. Nous jouons au Théâtre Pesquine. Hein. La pièce a été créée par le Théâtre de l'Épi, mais nous jouons...
D'accord, c'est bien de le préciser.
Donc, voilà.
Je reçois Béatrice Davin, donc bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Raymond, comédien.
Bonjour.
Donc le Théâtre de l'Épi, comme vous le dites, c'est le théâtre...
Je vais faire juste représenter s'il le faut le Théâtre de l'Épi. C'est une association,
d'accord,
théâtrale donc, qui se trouve à Blois, qui existe depuis plus de 30 ans. Et chaque année, nous présentons une voire deux pièces que nous avons la chance de jouer la plupart du temps au Théâtre Pesquine, qui est une très très belle scène théâtrale. Et cette année, donc, nous avons présenté Eva Perron en fin juin, et il y avait énormément d'activités à Blois en ces périodes. Donc nous avons été sollicités à nouveau pour la rejouer en décembre. Et donc nous la jouons le 6 et 7 décembre.
Est-ce que vous pourriez peut-être m'indiquer l'endroit du Théâtre Pesquine,
oui,
parce que je connais un petit peu quelques théâtres à Blois, notamment la Quinière à côté du studio et le Georges Semprin, mais celui-ci je ne connais pas.
Alors le Théâtre Pesquine, c'est le théâtre qu'on appelait avant le Théâtre des Provinces. Alors il s'appelle le Théâtre Nicolas Pesquine. C'est vrai que certaines personnes l'appellent encore le Théâtre des Provinces. Donc c'est 8 rue du Lieutenant Godinot à Blois, c'est à côté pour le situer de la prison. Voilà, à
d'accord,
côté du lycée de Seigne, enfin dans ces, dans ces parages.
Donc, Copy, un auteur,
oui,
dramaturge d'Amérique du Sud. Est-ce que vous pourriez, avant de parler de la pièce,
oui,
nous parler un petit peu de cet auteur?
Parler de cet auteur, vous en avez déjà dit pas mal. Moi, c'est plutôt, j'ai envie de parler de la pièce Eva Perron.
D'accord.
Parce que, bon, Copy, il est surtout connu des personnes qui ont à peu près entre 50 et 60 ans.
Mm-hmm.
Hein, c'est quelqu'un qui a été dans les mouvements de libération. Il était l'ami d'Ockenheim, de Christian Aignon et tout, mm-hmm, ça. Donc, c'est vraiment les gens qui ont connu un peu cette période. Et puis, les gens qui s'intéressent à la littérature et au théâtre de Copy, bien sûr.
Dans ces années, j'imagine qu'à Paris, il a dû faire parler de lui.
Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, non seulement il avait du talent théâtral, mais il aimait beaucoup se travestir. Je crois même qu'il est apparu dans une publicité Perrier, c'est fou. C'est lui qui était le travesti.
D'accord.
Il lui arrivait de se travestir dans la rue très 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 fréquemment.
Non.
Voilà, parce que quand on a décidé de jouer, enfin quand j'ai décidé de mettre en scène cette pièce, j'avais au départ voulu cette mise en scène pour m'intéresser un peu au travestissement et puis à la teneur politique aussi de cette pièce.
Il y a une dimension politique importante quand même, j'imagine.
Oui, parce que juste en écrivant cette pièce, Copy s'est vu bannir du continent sud-américain parce qu'il dénonçait justement le régime péroniste. Son père étant lui-même un anti-péroniste, il avait hérité de ça.
Mm-hmm.
Et donc, il n'a plus jamais remis les pieds sur le continent sud-américain.
À l'époque, c'était un régime, j'imagine,
une dictature.
Militaire, dictatorial, quoi.
Voilà, c'est ça. Et donc Eva, si on enchaîne sur Eva, Eva Perron était la femme du général Perron et était, on l'appelait la petite mère du petit peuple, du peuple.
Proche du peuple. Donc.
Proche du peuple. Je ne sais pas si j'ose dire qu'elle donnait une espèce de vernis social à la dictature, à son dictateur de mari. En tout cas, c'est comme si elle l'aidait à être un peu plus
humain,
un peu plus doux dans sa violence.
Mmh.
Et donc elle était très très aimée du peuple Et c'est à cette figure-là qu'il s'est attaché dans ce livre. Mais aussi, surtout, enfin moi c'est ma lecture après, à cette espèce de folie mégalomaniaque qu'est la folie du pouvoir. Hein. Et ce dans quoi ça va l'embarquer donc, dans cette fiction, hein, parce que Eva Perron, cette pièce écrite par Coppi, c'est une fiction.
Bah oui, donc vous êtes metteur en scène de cette pièce.
Oui,
Vous êtes documenté, quand vous êtes arrivé à connaître cet auteur, est-ce que vous l'avez fait par passion? Est-ce qu'on vous a demandé de mettre ce projet en place? Est-ce que vous connaissiez avant?
Non.
Comment vous êtes venu à monter en scène ce projet?
Alors, je connaissais cette pièce pour l'avoir lue et vue, pour avoir lu d'autres pièces de Coppi. Et puis, nous l'avions vue au Festival d'Avignon avec Daniel, qui est là, à côté de moi. Et puis, on avait envie de travailler initialement cette pièce. Et aussi, Daniel avait envie de travailler le travestissement. Je trouvais ça intéressant. Et on en est parti, on y est revenu et puis reparti. Et puis finalement, cette mise en scène s'est mise en place. Que dire d'autre ? Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très connue du grand public.
Vous allez peut-être, pouvoir nous parler un petit peu du fond de la pièce.
Voilà, je vais paraphraser mon fils qui me dit, tu sais maman, quand on voit Eva Perron de Coppi sur une affiche, alors il me dit, je sais bien que ça qu'on prononce Perron, mais... Je ne sais pas si ça évoque quelque chose aux gens. Alors, c'est vrai que peut-être qu'on peut parler de la pièce.
On peut en parler. Je vous invite à nous présenter, à pitcher, comme on dit, un petit peu.
Je ne sais pas si Daniel, tu veux en parler ou je débute.
Non, je te laisse en parler.
Voilà. Alors, en fait, c'est un huis clos. On assiste au dernier jour d'Eva Perron, qui souffre d'un cancer. Ça c'est une vérité historique, elle souffrait d'un cancer, elle en est morte à l'âge de 33 ans, 34 je sais
elle était
plus.
Jeune
et donc sont enfermés avec elle Perron, Ibiza qui est une espèce de conseiller qui est un personnage inventé par Coppi me semble, la mère d'Eva et puis l'infirmière qui est à son chevet et donc se joue la fin d'Eva. Alors, si on décrit un petit peu les personnages, Eva est une femme de pouvoir, mégalomaniaque, qui casse ses jouets, qui casse son entourage. C'est très paradoxal, elle peut aimer autant qu'elle est, notamment avec sa mère. Elle règle ses comptes avant son ultime sortie. Il y a la mère qui revient de la Côte d'Azur, qui cherche à se raccrocher aux branches cassées et à soutirer le plus d'argent à sa fille avant son départ. Il y a Perron qui est un personnage migraineux. Alors la migraine, on ne sait pas si elle est authentique et historique, mais en tout cas, il est affaibli, perdu. Peut-être que la mort d'Eva va entraîner sa déchéance politique. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Et puis il y a Ibiza qui est un conseiller, une sorte de premier ministre. Coppi l'a voulu un peu ambivalent et ambigu, un peu travesti.
Qui a sa place un peu sur les deux fronts, quoi.
Voilà,
politique,
qui est à la fois
personnel.
Complètement, qui est à la fois. On pourrait imaginer qu'il est à la fois l'amant de Perron et d'Eva. Alors là, c'est ma petite.
C'est suggéré.
C'est la lecture que je m'en fais, Daniel. Je vois Daniel qui
bah, dans la pièce, l'amant d'Eva, c'est pratiquement visible.
Oui,
après,
oui.
L'amant de Perron, je ne sais pas.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Donc, tous ces personnages vivent cette dernière mise en scène.
Stimulés donc par les jeux un peu de pouvoir de
Eva,
chacun, on est très dans
Eva,
les jeux du
surtout,
pouvoir.
D'Eva surtout. Oui, d'Eva. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Coppi, dans son écriture, a décidé de faire jouer Eva par un homme. Donc, travesti.
Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Certainement que ça résonne à son histoire hein, personnelle, c'est-à-dire ce transgenre de l'époque, hein, qu'il assumait complètement, hein, puisqu'il il se travestissait. Et puis la mère également. Alors, la mère, elle n'est pas homme dans toutes les mises en scène. Eva est... c'est marqué dans les didascalies, mais en tout cas, ce rôle a été écrit pour un homme qui interprète une femme.
Je pense qu'il voulait aussi donner une dimension parodique plus importante aussi, le fait de faire jouer Eva et la mère d'Eva par un homme.
Oui, tout à fait, oui. Et oui, puis c'est alors peut-être aussi qu'à l'époque, c'est le pouvoir représenté par l'homme.
Il y a ça qui est présent et qui est important, à mon avis.
C'était pas encore bien dégrossi, ouais. Tout ça, à cette époque. Et c'est peut-être aussi cette histoire. Mais...
Oui, et puis pour revenir au travestissement, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnages de femmes joués par des hommes. C'est pas vraiment... voilà, on joue pas les folles, on est un homme qui joue un rôle de femme, et donc avec ce qui donne une dimension de pouvoir, effectivement, aussi à Eva,
oui.
Le fait
peut-être
de...
Peut-être avait-il le désir profond d'être des femmes.
Alors, on va pas parler à sa place, mais je
c'est
pense
difficile.
Que ça...
C'est difficile.
Oui,
parce qu'il y a, y a quand même la dimension de comédie,
oui,
du
oui,
comédien, mais l'auteur a désiré quand même que ça soit interprété par...
Oui.
Un sexe et pas par un sexe qui est interprété par un autre sexe.
Tout à fait.
Oui, oui, mais
donc
ça,
c'est quand même c'est imposé aux gens qui regardent, du coup. Donc il y a une dimension un peu spéciale comme
non,
ça.
Ouais. Alors moi, je pense aussi qu'il raconte... Enfin, après, on va pas peut-être... parce que c'est pas, le sujet, c'est pas le sujet de la
c'est
pièce.
C'est pas le sujet.
Ouais, ouais. Voilà. Mais je crois qu'il avait une intention particulière et un désir particulier à ce que cette femme soit interprétée par un homme.
D'accord.
Oui. Alors, quand on la raconte comme ça, donc ça fait huis clos, il se trouve que dans l'écriture de copie, on pourrait imaginer, enfin, c'est entre Shakespeare et Phèdre. C'est à la fois la dramaturgie d'un Shakespeare, parce que c'est grave ce qui s'y passe. Hein, c'est la relation entre des gens qui s'aiment et qui se détestent. Et puis à la fois, il y a beaucoup d'humour, hein, grinçant, cinglant, piquant, mais il y a beaucoup d'humour.
Daniel Raymond, vous êtes comédien.
Oui.
Pour que les gens, les auditeurs de Studio Zef puissent situer un petit peu, est-ce que vous pourriez peut-être nous raconter votre parcours en tant que comédien ?
Alors, je suis au Théâtre de l'Épi depuis 22 ans. Donc, j'ai joué déjà beaucoup de pièces au Théâtre de l'Épi. J'avais joué un petit peu avant, j'étais à Tours faire un atelier théâtre et j'ai joué aussi à Tours, mais ma plus grande partie de mon parcours de comédien, c'est au Théâtre de l'Épi.
D'accord.
Voilà, on a eu l'occasion d'aller jouer aussi à Avignon deux fois.
Voilà. Qui est un petit peu la Mecque
et qui est
du théâtre en France, faut le dire quand même.
Un très grand bonheur pour un comédien de jouer 21 fois de suite, c'est très très bien.
Super. Vous avez rencontré, j'imagine, le directeur là, du festival d'Avignon.
Olivier Py.
Olivier Py.
Non,
ouais.
Mais c'est un rêve.
Il a une actu en ce moment, j'ai entendu parler de lui.
Ah oui, c'est magnifique, au 104.
Il parle de lui.
C'est le cahier noir.
Pour quelle raison en ce moment, je l'ai vu dans les. Mais je ne vais pas dire les médias, mais il a
oui,
fait
oui.
Parler de lui encore. Il ne s'est pas investi dans un projet.
Je suis allée voir son spectacle, c'est au 104 à Paris, il parle
c'est
de ses
ça.
Écrits de jeunesse. Ouais.
C'est ça, je crois que j'ai dû le voir sur la 5, ça devait être Entrée libre ou quelque chose comme ça. Il n'est pas paru, vous ne l'avez pas vu. Il me semble qu'il a parlé de son projet là.
Oui, oui, oui. C'est très beau d'ailleurs, si vous voulez y aller, c'est très beau.
On peut en parler, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Hein. Donc vous l'avez rencontré et ça doit être un personnage assez
non,
sympathique.
Non, non, non.
Vous ne l'avez pas rencontré ?
Non.
Non.
Essayez de l'inviter à Blois. Parce qu'il est comédien aussi, moi j'ai déjà vu.
Alors pour la petite histoire, Daniel Ferras n'est pas là, mais il nous en parlerait mieux. Pour la petite histoire, figurez-vous qu'à l'époque, Olivier Py était directeur de la scène d'Orléans. Avant même qu'il y soit, justement, il est venu faire un stage dans notre lieu de répétition au Théâtre de l'Épi. Voilà, donc c'est marqué de sa patte. On y pense quand on entre dans ce lieu.
Super.
Voilà, j'aurais voulu évoquer un tout petit peu, si vous le permettez, l'ambiance de la pièce.
Ok.
Si j'ai le temps.
Allons-y.
Ouais. Parce que du coup, j'avais envie de parler de l'unité lieu. Pour symboliser cet enfermement dans lequel se trouve Eva, je regardais évoluer les personnages au tout début des répétitions. Mmh. Et je me demandais comment j'allais la symboliser. Et puis à un moment donné, il y avait ce mot enfermement qui trottait dans ma tête. Et puis j'ai eu cette idée, cette vision d'un hôpital psychiatrique. Donc cette scène, cette pièce, Eva Perron, donc sans... sans faire peur aux puristes de la pièce Eva Perron, hein, qui est une pièce ouvertement politique, j'ai gardé l'historicité, j'espère ne pas avoir dérogé à cela, mais en revanche, j'ai choisi cet univers psychiatrique et j'ai envie de préciser quelque chose qui me semble important, je ne sais même pas si j'ai besoin de le rappeler, mais en tout cas, Donc les comédiens vont jouer la folie. Et en jouant la folie, ce n'est pas se jouer d'elle. Ça, il me semble important de le rappeler. C'est justement, cette folie fait partie de nous et elle est la normalité. Alors après, tout dépend comment on l'entend. Et ça donnait aussi, cette unité lieu donnait une grande liberté à mes comédiens. Enfin, aux comédiens. Je ne sais pas pourquoi j'en place pas.
Ça laisse de la place, du coup, à l'interprétation.
Voilà. Et puis, c'est aussi... Alors, je vais employer cet oxymore, parce que je trouve que cette pièce, elle est oxymorique. Hein. Ça veut dire qu'elle est tout et son contraire. C'est pour ça qu'elle est tragique, mais elle est comique. On a peur, mais on se marre. Et c'est aussi... je vais employer cet oxymore qui est liberté carcérale. C'est l'espérance que demeure dans cet univers clos une part de liberté. Mmh. Hein. Et ça, je crois qu'on a tous cette espérance-là, que ce soit dans l'enfermement, son propre enfermement, mais aussi dans l'enfermement carcéral, dans l'enfermement de la folie, dans l'enfermement des dictatures. Voilà. Et c'est peut-être... ce que j'avais envie de montrer, hein, si on dit que le théâtre est politique, bah c'est mon élan
toute
politique.
Toute forme de communication, au bout d'un moment, peut être interprétée de façon politique, j'imagine.
Complètement, ouais. Complètement.
Voilà. Et puis les paradoxes.
Voilà.
Les paradoxes sont présents très souvent.
Voilà.
Justement, ouais. Dans les opposés, souvent, ça peut amener à des choses très drôles. Quand ça devient très gravissime, on peut facilement s'en jouer, j'imagine. Vous avez joué sur ça.
Oui, un peu, oui, tout à fait.
Ça a marché dès le début, vous l'avez senti, les premières représentations?
Ça a été, au départ, alors, dès le départ, ce qui est vraiment, j'ai envie de le dire aussi, les comédiens font le metteur en scène. Le metteur en scène a besoin des comédiens, les comédiens ont besoin du metteur en scène. Mais tout de suite, ils ont donné cette ambiance. Après avoir donné cette indication, j'ai la chance d'avoir... 5 très bons comédiens.
Dont on peut-être rappeler les noms.
Bien sûr.
Marc Aubry, Laurent Cronier, Daniel Ferras, Nathalie Deschamps et moi-même.
Voilà.
On peut peut-être parler un petit peu de la technique, parce que pas pour rien que vous êtes ici, c'est quand même grâce à un technicien.
Ah mais complètement.
Alors là, on en parle.
Bien sûr. Jaco est à la lumière. Alors Jaco, j'ai envie de dire qu'il a éclairé ma mise en scène, je le dis pas...
Belle image.
Je sais pas si le terme éclairage plaît au régisseur Lumière, mais en tout cas, il a éclairé ma mise en scène parce qu'il a compris tout de suite quel genre d'ambiance j'avais envie d'avoir.
J'imagine.
Et tout est important. Et c'est une véritable création Lumière. Mmh. Et une belle création Lumière. Ensuite, il y a Raphaël Ganimède, qui est créateur de la bande musicale, de l'intervention aux manettes. Hein,
qu'est-ce que fait Raphaël, du coup?
Alors, Raphaël,
il envoie toutes les bandes-son.
Alors Raphaël, il envoie... il a créé la bande-son.
Il l'a créée, donc il est compositeur.
Oui. Alors moi, j'ai choisi les morceaux musicaux. Et puis Raphaël les a fait s'immiscer dans cette pièce.
Les a réinterprétés.
Il aide, enfin, comment dire, avec ça, il arrive même à aider les comédiens à parler sur ce tissu musical. Et ça, c'est, il a fait un décor sonore, voilà.
D'accord.
Et je trouve son travail magnifique.
Raphaël est un bel artiste, on le connaît dans les studios, il est venu souvent. Et puis,
il faut absolument...
On le connaît dans la ville, il intervient.
Voilà.
Donc,
Alors, il a un nom d'artiste qui est Difa. Je crois que c'est important de le rappeler. Et aussi DJ l'acoustique pour sa musique.
Alors, à Studio Zef, on le connaît plus sous le pseudo l'acoustique.
Que Difa.
Que Difa, parce que Difa, c'est pour la photographie,
photographie.
C'est pour le visuel, le travail visuel.
La vidéo et son travail aussi autour du théâtre.
Et
puis il a fait aussi un gros travail de vidéo et j'ai pas envie d'en parler plus parce que ça fait partie aussi d'une des surprises du spectacle.
D'accord.
Et ça, c'est important.
On peut le retrouver, j'imagine, classiquement sur les pages Facebook, les réseaux sociaux,
tout à fait,
donc Difa, D2EPHA, et l'acoustique avec CK au milieu et un E à la fin.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis aussi, on peut voir le teaser qu'il a fait pour la pièce sur le site du Théâtre de l'Épi. Que vous avez vu, vous me faites
je connais son travail de teasing et de montage, c'est très très professionnel, très efficace.
Il est magnifique.
Alors,
je suis très contente
on peut le retrouver
sur le site. Vous
donc
voulez le
théâtre.epi@gmail.com.
Alors,
ça c'est la boîte mail.
Mail.
Si vous voulez donc rentrer en contact avec les gens du théâtre Peskin, j'imagine.
De l'Epi.
Sur l'Epi, d'accord.
Oui, nous sommes le théâtre de l'Epi et le théâtre Peskin, c'est le lieu.
C'est le lieu.
Voilà.
Et alors, pour avoir ce teasing, c'est sur www.théâtredelepi.com.
Exactement.
Tout ça attaché.
Oui, exactement. Et puis, je voulais juste pour. J'ai envie de citer aussi mon fils qui a fait une petite participation, ça c'est mon côté un petit peu nombriliste maman, une participation musicale de Paul Marchand, c'est mon fils et il a fait tout un habillage sonore aussi qui me plaît beaucoup.
Il fait partie de la troupe.
Bien sûr. Et voilà, et je dois dire que j'ai passé un excellent moment avec les comédiens, le début de cette mise en scène, tout ce parcours qui a commencé en septembre 2015 et qui va certainement s'achever après les deux représentations en décembre.
D'accord.
Alors on a envie que les gens viennent nous voir.
Et est-ce que le projet a la possibilité de s'exporter autre part dans la ville et peut-être en dehors de la ville ou pas ?
Alors pourquoi pas, c'est vrai que c'est un gros investissement. Quand on était allé au Festival d'Avignon avec Nathalie Sarraud pour un oui ou pour un non, c'était un énorme investissement de la des personnes, aussi puis financier. Là, on pourrait jouer dans des salles.
Proposer le projet, ne serait-ce qu'à la Lograin par exemple.
Non, alors la Lograin ne fait jouer que des professionnels. Nous sommes un théâtre amateur.
D'accord.
C'est la différence. C'est-à-dire que la différence, je vais vous l'expliquer.
C'est une scène nationale, comme on dit.
C'est que nous, parfois, nous payons pour jouer et les professionnels sont payés pour jouer.
Ça, c'est un paradoxe, ça.
Mais ça n'entache absolument pas la qualité des comédiens, je trouve.
Bien au contraire, l'investissement doit être encore plus ardent, j'imagine.
Oui, oui. Et puis, c'est surtout que si les gens ont envie de venir au Théâtre de l'Épi, voir... je trouve que cette association est belle parce qu'elle est... D'abord, elle dure depuis 30 ans, c'est quand même un beau symptôme. Et on s'y sent bien. Donc, il y a des ateliers. Si les gens ont envie de venir, ils vont
sur une grande famille.
Et ouais, mais avec la différence, c'est que ce n'est pas la famille.
Très bien.
Voilà.
Merci à vous, Daniel et Béatrice.
Merci d'avoir nous avoir accueillis.
Ben avec plaisir. Je rappelle tout de même donc la pièce de Copie Eva Perón. Au théâtre Nicolas Peskin le 6 et le 7 décembre à partir de 20h30. Oui. N'hésitez pas à venir donc réserver aussi sur le théâtre.epi @gmail.com.
Oui. Et puis un numéro de téléphone.
Et le numéro de téléphone, on peut le laisser, le 06 28 15 92 94 au théâtre Peskin, Nicolas Peskin. On se laisse avec une petite ambiance. Et à très bientôt sur les ondes de Studio Zef.